Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Bonsoir, ravi de vous retrouver. Le gouvernement répond à la détresse des agriculteurs après les orages de grêle. Une série d'aides ont été annoncées. Reportage à suivre avec les viticulteurs du Gers. Les tirs mortels de policiers lors d'un contrôle à Paris. L'affaire se déplace maintenant sur le terrain politique. À quelques jours des législatives, passe d'armes entre Jean-Luc Mélenchon et Gérald Darmanin. Les trois policiers sont toujours en garde à vue à l'IGPN. Boris Johnson poussé vers la sortie sur fond de Partygate. Le Premier ministre britannique affronte ce soir un vote de défiance de sa propre majorité. Résultat dans quelques minutes, on sera en direct de Londres. Les Bleus vont-ils se racheter après leur défaite face au Danemark ? Croatie-France en direct, un point sur le score. Cyril de la Morinerie.
57 minutes de jeu et la France vient d'ouvrir le score 1-0 pour les Français. Un but d'Adrien Rabiot à la 52e minute.
Merci Cyril, on vous retrouve bien sûr à la fin de ce journal. Le temps pour demain sera nuageux et souvent pluvieux sur la moitié nord, plus ensoleillé au sud. Détail à suivre avec Marlène Duret. À moins d'une semaine des législatives, je recevrai à 22h20 Julien Sanchez, le porte-parole de Marine Le Pen. Et puis juste avant la libre antenne, les unes de la presse pour demain matin.
Europe 1.
Des années de travail saccagées en quelques minutes. Le gouvernement a annoncé ce lundi une série d'aides pour le monde agricole après les intempéries du week-end. Des champs de blé, de maïs, des vignes hachées menues. En Gironde, Marc Fesneau a annoncé l'étalement du remboursement des prêts garantis par l'État. Le ministre de l'Agriculture s'est ensuite rendu dans le Gers à la rencontre de viticulteurs dont certains ont tout perdu. Benjamin Péter, vous avez entendu leur détresse cet après-midi à Castelnau-d'Auzan.
Oui, tous décrivent ce moment éprouvant où ils ont découvert leur vigne d'Armagnac ou de Côte de Gascogne hachée par des grêlons parfois de la taille d'une balle de golf. D'ailleurs, au sol, la terre porte encore les marques des impacts. Nicolas Bonnefemme a encore du mal à réaliser la violence de cet orage de grêle.
Il y a très peu de feuilles. Les grappes, eh bien, il n'y en a quasiment plus. Il y a 20 ans que je suis installé, je n'ai jamais vu ça. Mon père qui a 81 ans m'a dit, eh bien, moi, je n'ai jamais vu ça non plus. Un semblant d'apocalypse, quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire avec la vigne, quoi. Est-ce que... on la laisse comme ça, est-ce qu'il faut la retailler? Enfin, aujourd'hui, on est un peu dans le néant, quoi.
Beaucoup étaient assurés, mais après deux années de gel déjà, Vincent Piquemal, qui a perdu la totalité de sa récolte cette fois sur 40 hectares, voit bien qu'il ne peut pas espérer grand-chose.
Ça ne va pas me sauver. Je suis assuré au maximum de ce que je peux, mais le calcul que nous appliquent les assureurs à l'heure actuelle fait que je suis très mal assuré. On doit prendre les 5 dernières années, on élimine la meilleure, on élimine la plus faible, et on fait la moyenne sur les 3 restantes. Mais quand vous en avez 4 qui sont mauvaises, vous restez qu'avec du mauvais, quoi. J'assure à peine 50% de mes charges de production.
Et ils ont demandé au ministre de changer ce calcul des assurances qui, selon eux, met en danger leur avenir et leur fait perdre durablement des parts de marché.
Benjamin Péter dans le Gers pour Europe 1. À moins d'une semaine maintenant des législatives, la classe politique s'empare du contrôle de police qui a dégénéré samedi en fin de matinée à Paris. Dans un tweet, Jean-Luc Mélenchon dénonce une police qui tue, appliquant la peine de mort pour un refus d'obtempérer. Insulter les policiers et les gendarmes déshonore ceux qui veulent gouverner. Voilà ce que lui a répondu le ministre de l'Intérieur. Ce soir, les trois policiers qui ont fait face à ce refus d'obtempérer sont toujours en garde à vue à l'IGPN, la police des polices. Leurs tirs contre le véhicule ont coûté la vie à une passagère. Le conducteur est grièvement blessé. Il n'a pas encore pu être interrogé, Gladys Laffitte.
Non, il a été placé brièvement en garde à vue à l'hôpital, mais finalement, son état ne lui permet pas de répondre aux questions des autorités. D'abord, dans le cadre de l'enquête dont il fait l'objet pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Selon le récit de la police, cet homme de 38 ans a délibérément foncé sur un équipage de policiers à vélo qui tentait de le contrôler, raison avancée des tirs sur la voiture. L'homme blessé au thorax roulait sans permis et compte près de 80 mentions au fichier du traitement des antécédents. Dans judiciaire. Il doit également être interrogé dans la deuxième enquête, celle dans laquelle les trois policiers tireurs sont en garde à vue, notamment pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ça concerne la passagère. L'IGPN, la police des polices, doit déterminer si la légitime défense s'applique dans ce cas précis. Le qualificatif d'enquête choisi montre pour l'instant que l'intention de tuer n'est pas privilégiée. Le parquet de Paris explique que la gravité des conséquences des tirs justifie la mesure de garde à vue, qui peut durer jusqu'à demain midi.
Gladys Laffitte, maître Laurent-Franck Liénard est l'avocat des policiers. Il était l'invité ce soir de Punchline sur Europe 1 et il ne comprend pas que ses clients soient placés en garde à vue à la police des polices.
Moi, ça me révolte parce que ce sont des policiers qui, au quotidien, essayent d'assurer la sécurité et la paix publique, qui sont obligés d'utiliser leur arme dans une scène qui dure quelques secondes et scène pendant laquelle leur intégrité physique est vraiment mise en jeu. Ils ont failli mourir. Ils utilisent leur arme et ils se retrouvent en cellule. Ils ont dormi dans une cellule. Ils vont dormir ce soir à nouveau en cellule, comme si c'était les derniers des délinquants. Ils acceptent totalement le jeu normal des institutions, c'est-à-dire qu'ils répondent aux questions, ils participent aux enquêtes, mais ils sont effondrés. Ils sont effondrés d'abord par ce qu'ils ont vécu, par l'agression dont ils ont été victimes, par les tirs qu'ils ont été contraints de faire. Ils ont appris ce matin que la passagère était morte. C'est la fin du monde pour eux, hein. Et puis, ils apprennent que demain, ils vont être déférés, ils vont voir un juge. Leur avenir est entre les mains d'un magistrat qui n'était pas là, qui n'a pas vécu ce qu'ils ont vécu. C'est extrêmement difficile.
Maître Laurent-Franck Liénard avec Laurence Ferrari dans Punchline sur Europe 1. À Marseille, maintenant, un jeune homme de 23 ans a été tué par balle et un autre sérieusement blessé hier soir dans la cité de la Bricarde, connue pour abriter des points de deal. La victime était connue pour des affaires de stupéfiants. Et puis un peu plus tard dans la nuit, cette fois dans un autre quartier de Marseille, à la Belle de Mai, ce sont des policiers qui ont été visés par des tirs de fusil alors qu'ils répondaient à un appel pour un cambriolage. Aucun d'entre eux n'a été blessé. 6 suspects ont été interpellés. Boris Johnson poussé vers la sortie, le Premier ministre britannique qui faisait face ce soir à une motion de défiance de sa propre majorité excédée par le Partygate. Anaïs Cordoba, vous êtes à Londres en direct pour Europe 1. Les résultats nous sont parvenus il y a quelques minutes à peine. Boris Johnson survit à ce vote de défiance, Anaïs.
Tout à fait. Hein. 211 députés conservateurs sur 359 l'ont soutenu. Dans l'immédiat, ça veut dire qu'aucune autre mention de censure contre lui ne peut avoir lieu pendant un an. Il sauve son poste. Mais attention, 148 députés conservateurs qui ont voté contre lui, c'est une grosse rébellion, c'est plus de 40% de ses élus. À moyen terme, sa survie n'est pas assurée, ça va être difficile hein, maintenant pour Boris Johnson. Les députés rebelles pourraient empêcher le gouvernement de faire passer des lois, certains d'entre eux ont déjà menacé de le faire. Ses ministres pourraient aussi décider de le lâcher si les conservateurs continuent de s'écrouler dans les sondages. Sa position deviendrait alors intenable. Sachez que dans l'histoire récente, aucun leader conservateur qui a survécu à une motion de censure ne s'est maintenu ensuite au pouvoir plus de quelques mois. C'était le cas de Theresa May qui a été contrainte de démissionner 7 mois après avoir remporté un vote de défiance. Et selon de nombreux spécialistes ici, maintenant ce n'est plus une question de si, mais quand Boris Johnson va tomber.
Anaïs Cordoba en direct de Londres pour Europe 1. Le spectre de la famine pour les nombreux pays qui dépendent des céréales d'Ukraine, l'un des plus gros exportateurs mondiaux. La quantité de céréales bloquées actuellement en Ukraine pourrait tripler d'ici à l'automne, estime le président Zelensky, pour atteindre 75 millions de tonnes. Les combats font rage à Severodonetsk dans l'est du pays. Les Ukrainiens tiennent bon, assure Volodymyr Zelensky, mais les Russes sont plus nombreux et plus puissants, dit-il. Si Moscou venait à prendre cette ville clé, ce serait un grand pas vers le contrôle total d'une région entière de l'est de l'Ukraine.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
7h23 du matin, il y a exactement 78 ans, le déclenchement du débarquement de Normandie. Immense opération militaire orchestrée par les Alliés pour libérer la France de l'occupation nazie. Plusieurs cérémonies de commémoration avaient lieu aujourd'hui, comme à Bernières-sur-Mer, dans le Calvados, où vous vous trouviez, Nina Droff.
Cette année, la cérémonie mettait l'accent sur une plage du secteur canadien, un hommage qui a beaucoup ému le commandant Georges, un ancien combattant venu à la cérémonie.
Je compatis avec tous ceux qui sont restés sur la plage de Bernières, dont ils n'ont connu que le sable rougi. Il ne faut pas oublier qu'environ 5000 Canadiens sont tombés pour la bataille de Normandie. Ils ont donné tellement pour notre liberté qu'on leur doit bien ça.
Mais les soldats des autres nations ont aussi été honorés aujourd'hui, notamment les combattants américains. Une trentaine de vétérans sont venus se recueillir sur la plage d'Omaha, où ils ont débarqué il y a 78 ans. Parmi eux, Jack Stones, âgé de presque 100 ans.
C'est vraiment super d'être ici et de revoir les gens. Je me souviens de tout ici. Je nous revois franchir les lignes pendant qu'on était bombardés par les tanks allemands.
Et pour cet événement international, les spectateurs étaient venus de la France et du monde entier. Un passage obligé pour ce groupe d'amis venus du sud de la France.
Quand on évoque ces jeunes hommes qui avaient 18-20 ans, qui sont venus au devant presque de la mort, ça force le respect.
C'est un devoir de mémoire et puis je pense que voilà, il faut pas oublier ce qui s'est passé sur nos plages. C'est d'autant plus important comme les vétérans sont de moins en moins nombreux.
Et ils ont déjà prévu de revenir l'année prochaine pour honorer les soldats.
Reportage Nina Droff près de Juno Beach, l'une des plages du débarquement dans le Calvados. Vous n'allez peut-être pas le croire, mais dans la lutte contre le Covid, alors que les cas, vous le savez, repartent à la hausse, les chiens, oui, les chiens, sont aussi efficaces qu'un test PCR pour détecter les cas positifs. On met en fait à contribution l'odorat très développé de nos compagnons à quatre pattes. C'est ce que révèle une étude inédite par son ampleur, menée par les hôpitaux de Paris et l'école vétérinaire de Maison-Alfort, Yasmina Katou, car contrairement au PCR qui peut prendre plusieurs heures à analyser, eh bien le test olfactif avec les chiens, lui, est immédiat.
Oui, il suffit de quelques secondes aux chiens pour dépister le Covid chez un malade. Pour cette étude, les bergers malinois ont reniflé une compresse qui a été placée 2 minutes sous les aisselles des participants. 97% des cas symptomatiques ont été repérés par les chiens et même quand la charge virale était faible, les molosses ont réussi à 100% à détecter le virus, se félicite le professeur Jean-Marc Trélulier, responsable de l'étude pour la PHP.
Tout ce qu'on craignait au départ, c'est que les chiens arrivent bien à détecter les patients qui sont symptomatiques, mais pas les patients asymptomatiques. Et là, ce n'était pas le cas. Pareil, quasiment tous les patients qui étaient retrouvés négatifs en RT-PCR nasal ont été retrouvés aussi négatifs par les chiens.
Est-ce que cela veut dire que l'on va retrouver des chiens renifleurs à l'entrée des concerts ou des aéroports, par exemple ? Compliqué pour l'instant, répond le scientifique.
Les chiens qu'on a utilisés là, c'était des chiens des pompiers, des Yvelines et de l'Oise. Mais donc, ils ne peuvent pas les mettre à disposition tout le temps parce qu'ils en ont besoin. Et c'est une vraie difficulté. Ouais.
Pour démocratiser ce système de dépistage, des négociations sont en cours avec les autorités pour former plus de chiens à détecter le Covid.
Et Yasmina Katou. Elon Musk menace de renoncer au rachat de Twitter. Le milliardaire accuse le réseau social de rétention d'informations sur les spams et les faux comptes. Elon Musk qui a déposé en avril une offre de rachat pour 44 milliards de dollars. Depuis hier, on se demande si les extraterrestres prennent leur retraite. Raphaël Nadal, vainqueur de Roland-Garros pour la 14e fois, malgré une nécrose d'un os du pied. Il l'a dit, Rafa, hier, il a joué et il a gagné sans aucune sensation au niveau de son pied gauche. La question maintenant sur toutes les lèvres, le plus grand champion de l'histoire du tennis, va-t-il tirer sa révérence ? À Majorque, l'île natale de Nadal, personne ne veut y croire. Vous l'avez vérifié sur place, Guillaume Dominguez.
Et oui, que ce soit à Palma, la capitale de l'île, à Manacor, la ville natale de Rafael Nadal, ou du côté de son académie de tennis, tout le monde est d'accord. Rafa, comme on le surnomme affectueusement ici, n'en a pas fini avec la compétition. Beaucoup, comme Santiago, pensent qu'il surmontera cette nouvelle épreuve.
Il y a 2 ou 3 ans, il a déjà eu une mauvaise année à cause de sa blessure. Et maintenant, il est revenu encore plus fort que jamais. Il est évident que Nadal est au top du top et va rester l'un des meilleurs joueurs du monde encore pendant 3, 4 ou 5 ans sans problème.
3, 4, 5 ans tranquillement.
Tous ici admirent la force de caractère extraordinaire avec laquelle Rafael Nadal est allé au bout de la quinzaine de Roland-Garros avec sa blessure au pied gauche. Pour Juan, qui le connaît depuis qu'il a 4 ans, c'est justement ce mental qui va lui permettre de continuer.
Nous savons depuis longtemps qu'il a ce problème au pied. Mais la volonté de jouer, la volonté de gagner et l'esprit de compétition de Rafael Nadal font que personne au monde ne peut le battre.
Et une chose est sûre, si l'avenir de Rafael Nadal sur le circuit est pour le moment incertain, l'admiration des habitants de son île, elle, n'est pas près de changer.
Guillaume Dominguez à Palma de Majorque pour Europe 1. Les Bleus sont attendus au tournant ce soir après leur défaite face au Danemark. 2e journée de Ligue des Nations. Les hommes de Didier Deschamps affrontent en ce moment la Croatie à Split. On est en direct avec vous, Cyril de la Morinerie. Comment s'en sortent nos Bleus ?
Eh bien, ils s'en sortent bien, ils s'en sortent bien. Il y a encore 20 minutes à jouer. Les Français mènent 1-0 depuis la 52e minute. Et le but d'Adrien Rabiot, son 2e but en sélection. Rabiot servi parfaitement par Wissam Ben Yedder et qui a pu du plat du pied gauche ajuster le gardien croate et marquer le premier but de cette partie. C'est mérité parce que les Français eh bien, sont beaucoup plus fringants que vendredi dernier malgré ces 10 changements, malgré plus de jeunesse. Mais sans doute plus d'envie, plus de fraîcheur aussi, malgré la chaleur ce soir, puisqu'il fait environ 28 degrés actuellement à Split. L'entrée d'Antoine Griezmann, qui a marqué lors de chacun de ses 3 derniers matchs à l'instant Antoine Griezmann qui entre, tout comme Boubacar Camara. Il remplace Tchouaméni et Ben Yedder. Donc une équipe de France vraiment intéressante, avec notamment Presnel Kimpembe, le capitaine, qui est très juste dans ses interventions. Il y a franchement des interventions plus tranchantes. C'est ce qu'avait demandé Didier Deschamps, et c'est ce qui est en train de se passer sur le terrain face à une formation croate emmenée par Luka Modric, qui malgré sa technicité, son envie, n'arrive pas à mettre dans de bonnes dispositions pour le moment les Croates, même si il a eu une énorme occasion justement Modric il y a un instant. Il est vraiment à l'entrée de la surface de réparation. Quelques gris-gris, il s'est mis en bonne position, il a frappé. Mike Maignan, qui remplace ce soir Hugo Lloris, a sorti une parade déterminante. Le score est toujours donc en faveur des Français. 1-0 pour les Bleus ici à Split face aux Croates. Il reste 19 minutes à jouer dans le temps réglementaire.
Cyril de la Morinerie, merci Cyril, en direct de Croatie-France à Split pour Europe 1. Le temps pour demain mardi, Marlène Duret, d'abord quelques orages qui circulent dès ce soir.
Absolument, des orages isolés. On en a eu dans le Roussillon en plaine, vers le Massif central. Ils se sont décalés vers l'Ain, l'Isère, avant de poursuivre vers les Savoies jusqu'en milieu de nuit. Ensuite, retour au calme avant la prochaine salve.
Alors, demain, maintenant, oui. Un petit peu de pluie au nord. C'est ce qui nous attend pour la moitié nord du pays, Marlène.
Absolument, Alexandre. Un front qui s'est un petit peu dédoublé et qui circule en ce moment sur la Bretagne et les Pays de la Loire, et qui va poursuivre sa route demain sous forme d'averses dans un ciel variable. Et on va en trouver demain matin, de la Normandie à la Lorraine et à la Bourgogne-Franche-Comté, en passant par l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la Champagne-Ardenne. Une zone d'averses, donc, qui aura tendance à régresser vers les frontières du nord et du nord-est l'après-midi. C'est aussi l'après-midi que ces averses arriveront en Alsace et elles pourront prendre un petit caractère orageux. En revanche, en allant vers la vallée du Rhône, le sud des Alpes, autour de la Méditerranée, soleil toute la journée avec pas mal de vent, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle dans ces régions, toujours affectées par la sécheresse. Et puis ailleurs, allez, un ciel qui hésite entre nuages et soleil. On n'est pas sûr. Certains prévisionnistes sont plus pessimistes que d'autres. Moi, j'avais annoncé de belles éclaircies tout à l'heure, j'en suis plus moins sûre. Bon. Je vous le dis. Donc on verra.
Bah, vous visez entre les deux. Voilà.
Exactement. Variable changeant. Ce qui est certain, c'est que le ciel va se charger sur l'ouest de la Bretagne dans l'après-midi, parce qu'il y a une nouvelle perturbation qui arrive. Quant aux températures, elles évoluent peu. 17 à 21 degrés près de la Manche, 20 à 25 sur le reste du territoire, mais elles atteindront 26 à 32 près de la Méditerranée et en moyenne vallée du Rhône, voire plus du côté du Var et de la Bouche du Rhône. On attend des 33-34. Et je voudrais terminer rapidement avec un petit clin d'œil pour vous, Alexandre, puisque la première tempête tropicale dans l'Atlantique Nord pour 2022 a été nommée hier et elle s'appelle Alex.
Eh ben, ça promet. Voilà. Merci Marlène. Nouveau point météo avec vous à minuit. On marque une courte pause. Tout de suite, Top à Wall Street. Et puis notre invité politique, Julien Sanchez, porte-parole de Marine Le Pen. À tout de suite.
Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Le Top à Wall Street vous est présenté par BNP Paribas, aux côtés des PME et des ETI engagés dans une démarche RSE avec ses solutions de financement à impact.
Et Top à Wall Street, c'est avec Didier Hamo. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
De boursier.com, Wall Street qui débute la semaine sur une note prudente. Twitter reste au centre de la spéculation.
Oui, le Dow Jones est stable, 32 914 points. Un marché assez calme. Le Nasdaq, plus 0,4% quand même, 12 061 points. Beaucoup de prudence après des séances de bourse difficiles à Wall Street sur fond de regain d'inflation. Twitter, oui, toujours beaucoup d'activité évidemment, moins 1,5%, 39,50$. Vous en parliez tout à l'heure. Elon Musk menace d'abandonner son offre de 44 milliards de dollars de rachat, donc une offre de rachat qui pourrait capoter si la direction ne lui communique pas le vrai nombre de faux comptes sur Twitter. Un nombre qui pourrait représenter plus de 5% des utilisateurs. Le titre donc en baisse ce soir d'1,5% et il perdait même plus de 5% en début de séance. On est hésitant sur Apple, plus 0,5%. Tesla remonte un petit peu après sa baisse de vendredi, plus 1,6%. Google aussi reprend 2%, mais Microsoft repère 0,5%, donc beaucoup d'hésitation. Le pétrole souffle aussi, moins 1,7%, 118$ le baril après sa hausse récente. Les taux long terme continuent de se tendre, on est à 3% sur l'emprunt à 10 ans, sur fond de regain d'inflation. Et puis l'euro campe autour des 1,07 face au dollar.
La bourse de Paris, elle a regagné 1% dans un marché bien calme ce lundi de Pentecôte.
Oui, logique, plus 0,98%, 6548 points sur le CAC 40. Le rebond a été emmené par les secteurs malmenés dernièrement, sur des achats à bon compte. Du côté de l'automobile, par exemple, Faurecia reprend 10%. 26,10 € après son augmentation de capital. Valeo plus 7%, donc on est chez les équipementiers, là, 21,28 €. Renault reprend 3%, Stellantis plus 1,7% à 14 €. Et puis du côté des bancaires, la Société Générale reprend 2,5%, 25,64 €, aidée par le broker Jefferies qui a remonté son objectif de cours sur la Société Générale de 25 à 35 €.
Exception du jour, Didier, EDF qui termine en léger retrait.
Oui, petite baisse, moins 0,1%, 8,36 €. Le broker HSBC est prudent sur le devenir du groupe, malgré la spéculation qui entoure la nouvelle organisation de l'électricien qui devrait intervenir dans les prochains mois. Le broker HSBC ne vise plus qu'un cours de 7,40 € sur EDF qui baisse de 0,12% ce soir, 8,36 €. Les autres places financières sont en hausse, mais c'est très calme. Le DAX à Francfort plus 1,3%, Bruxelles plus 1%. Milan regagne 1,6%, le CAC 40 a repris 0,98%, 6548 points.
Merci Didier Hamo.
Europe 1, Alexandre Lemaire.
L'invité politique à 22h20 sur Europe 1. Bonsoir Julien Sanchez.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole de Marine Le Pen et maire RN de Beaucaire dans le Gard. On est à moins d'une semaine maintenant du premier tour des législatives. Emmanuel Macron veut un Conseil national de la refondation pour agir vite et fort, c'est ce qu'il dit sur les réformes à venir. Et vous dénoncez, vous, au Rassemblement national, avec d'ailleurs les autres oppositions, un artifice politique.
Oui, alors agir vite et fort, bon déjà il a perdu 3 semaines pour nommer une nouvelle Premier ministre. Ensuite, bon, on voit qu'ils n'ont pas eu vraiment de chantier depuis qu'ils ont été nommés, depuis que ce gouvernement a été nommé. Et maintenant, donc, ils nous parlent d'un Conseil national, mais en fait, il n'y a qu'une chose, c'est que c'est l'Assemblée nationale, elle existe. Il suffirait pour ça qu'elle soit proportionnelle et qu'elle représente tous les Français. Je l'invite donc à réformer ce mode de scrutin. Plutôt que de faire un Conseil national, donc de toute façon, il n'écoutera pas les avis, puisque c'est ce qu'il avait fait sur le climat, et on voit bien qu'il n'a pas écouté les avis des Français sur ce sujet.
C'est-à-dire, vous craignez que ce soit une façon de court-circuiter peut-être la représentation nationale ?
Oui, c'est une façon de mettre ses amis dans une instance qui va être une instance voilà purement décorative et dont en plus il ne retiendra pas les avis, donc comme il l'a fait déjà avec l'instance qu'il avait créée, notamment sur le climat et le côté environnemental. On a bien vu que les avis des citoyens n'avaient pas vraiment été écoutés.
Marine Le Pen pugnace hein, hier en meeting dans son fief d'Hénin-Beaumont. Elle a vivement attaqué Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Elle dit « ce sont les deux mamelles de la destruction de la nation ».
Oui, je crois que Jean-Luc Mélenchon d'abord a appelé à voter Emmanuel Macron, donc il ne peut pas se prétendre être un opposant aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment une mauvaise foi totale. Et puis Emmanuel Macron, je le dis aux Français, n'ayez pas la mémoire courte, ne vous abstenez pas. Je crois qu'on a tous souffert pendant 5 ans à la fois du laxisme judiciaire, des problèmes de sécurité, de l'immigration massive, de la perte de pouvoir d'achat et du mépris envers les Français de ce gouvernement. C'est pas pour en reprendre 50 de plus. Donc, il y a eu le vote de la présidentielle. C'est un vote important. Mais le vote des législatives, il est plus important encore que la présidentielle parce qu'un président sans majorité, il ne fait pas ce qu'il veut. Donc, voter pour des députés, c'est très, très important. Et on sait que des députés du Rassemblement national, eh bien, eux, ils se déroberont pas. Ils se battront pour sauver les murs porteurs de la Maison France.
Alors, dans un récent sondage, hein, Elab, le RN arrive en troisième position. Hein. C'est la NUPES paraît mieux placé que vous dans ce scrutin qui s'annonce, Julien Sanchez. On est loin des 100 à 150 députés dont vous rêvez dans cette configuration.
Je suis désolé, moi, NUPES, ça me fait penser à RPS et je dirais aux Français qu'il vaut mieux pas l'attraper. Hein. Donc, je crois que tout simplement, Jean-Luc Mélenchon, ce serait grave parce que c'est quand même l'extrême gauche. C'est la submersion migratoire encore pire que Macron qui a fait venir 2 millions d'immigrés en 5 ans. C'est les rodéos urbains, c'est le désarmement de la police et non pas le désarmement des voyous. C'est la République des Traoré, c'est évidemment le communautarisme et c'est une coalition de haine sociale. Donc moi je crois qu'il faut vraiment éviter d'avoir Jean-Luc Mélenchon et que la principale opposante, celle qui est arrivée avec plus de 50% dans plus de 30 départements, près de 200 circonscriptions en France au second tour de la présidentielle, c'est Marine Le Pen. Donc on peut avoir des députés, si on va voter, si nos électeurs se déplacent, eh bien nous aurons beaucoup de députés à l'Assemblée nationale et c'est ça qu'il faut pour la France, pour que les vrais sujets soient au cœur du débat dans le Parlement.
Julien Sanchez, on voit ce contrôle de police qui a dégénéré à Paris se déplacer maintenant sur le terrain politique. Je rappelle ces policiers qui ont ouvert le feu à Paris sur un véhicule après un refus d'obtempérer. Une passagère a perdu la vie, le conducteur est grièvement blessé. Réaction, je voyais sur Twitter de Jean-Luc Mélenchon, la police tue, elle applique la peine de mort pour un refus d'obtempérer.
Non mais c'est très grave de la part d'un responsable politique d'être du côté des délinquants, du côté de la racaille. Je crois que les policiers, il faut quand même le rappeler, hein, c'est une profession qui souffre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont tout simplement, leur vie ne tient qu'à un fil. Encore il y a quelques heures à Marseille, sur un point de deal, des policiers de la BAC se sont fait tirer dessus. Ça, c'est les conditions de travail des policiers aujourd'hui. On pourrait dire pareil pour les surveillants pénitentiaires, on pourrait le dire pour beaucoup d'autres professions. Et eux, ils ne peuvent pas exercer leur droit de retrait. Eux, ils sont là quand il y a un problème. Et M. Mélenchon ne fait rien d'autre que de les cibler, de les viser. Mais heureusement qu'il y a la police aujourd'hui en France, dans beaucoup de quartiers. Heureusement que les policiers sont là. Mais il faudrait leur donner plus de moyens, au contraire. Et il faudrait surtout les soutenir. Et j'en ai bien compris qu'avec M. Mélenchon, ce serait le soutien aux dealers, à la racaille, plutôt que le soutien à la police qui fait son métier et qui ne tire pas par plaisir. Si elle tire, c'est parce que justement, elle se sent menacée. Et faut dire qu'aujourd'hui, dans beaucoup de quartiers, la police se sent menacée à juste titre.
On a vu les dégâts impressionnants, Julien Sanchez, causés par la grêle sur les cultures. Beaucoup d'agriculteurs, on l'a vu, ont tout perdu. La réponse du gouvernement aujourd'hui, étalement des remboursements, de prêts, défiscalisation, baisse des charges. Est-ce que c'est à la hauteur ?
Il faut faire le maximum sur ce sujet parce qu'on a quand même une indépendance alimentaire à défendre, une autosuffisance alimentaire dans un grand nombre de domaines. Je crois que c'est Hassan II, le roi du Maroc, qui il y a quelques années disait « la France est un grand jardin ». Et effectivement, la France est un grand jardin. Il faut défendre notre indépendance alimentaire, notre autosuffisance alimentaire parce que ce sont des produits faits avec de la qualité, avec amour, avec le cœur par nos paysans. Et je crois que tout ce qui pourra être fait dans ce domaine doit être fait. Et je crois qu'aujourd'hui, on a bien compris que l'Union européenne ne faisait pas assez pour l'agriculture en France. Et on a bien compris que le gouvernement ne se désintéressait beaucoup de l'agriculture française. Nous, au Rassemblement national, nous y sommes attachés parce qu'on est attachés à la France, à ce qui fait la France, à nos terres, à nos paysans. Et je crois que Marine Le Pen a bien conscience de tout ça et appuiera là-dessus avec nos députés à l'Assemblée nationale.
Merci beaucoup. Merci Julien Sanchez, merci. Porte-parole de Marine Le Pen et maire Rassemblement National de Beaucaire dans le Gard. 22h27 sur Europe 1. Une petite pause et dans un instant, on découvre les gros titres des quotidiens pour demain matin. On retrouvera ensuite Sabine Marin pour la Libre Antenne. A tout de suite.
Europe Nuit. Informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Les unes de vos quotidiens, demain mardi 7 juin, à l'approche des législatives, l'inquiétude qui monte à l'Élysée. C'est la une du Figaro face à la progression de la NUPES dans les sondages. Le président de la République est sorti de son silence pour dénoncer le programme de Jean-Luc Mélenchon et mobiliser son camp. Une victoire de la NUPES, peut-être. Libération est à deux doigts d'y croire. À moins d'une semaine, effectivement, du premier tour, la coalition de gauche accélère sa campagne et donc le camp macroniste prend la menace au sérieux. Pendant ce temps, les services publics à bout de bras, c'est la une de La Croix, à l'hôpital où des grèves sont prévues ce mardi, mais aussi dans l'éducation nationale ou au sein de la magistrature, les professionnels disent leur épuisement. Aux commémorations du D-Day, les chefs d'État et de gouvernement étaient absents aujourd'hui. C'est ce que relève Ouest France. Rendez-vous commémoratif et festif dans la Manche et dans le Calvados pour le 78e anniversaire du débarquement. Mais cette année, sans chef d'État ni Premier ministre, malgré la guerre en Ukraine, souligne Ouest France. 22h29, on retourne tout de suite à Split, en Croatie, où les hommes de Didier Deschamps affrontent les Croates qui viennent d'égaliser, Cyril de la Morinerie.
Oui, sur pénalty inscrit par Kramaric à la 83e minute, une faute dans la surface de réparation de Jonathan Klose sur l'attaquant croate. La VAR est intervenue et le pénalty a été donc désigné. Une nouvelle parade à l'instant de Mike Maignan sur une frappe croate. Ça chauffe hein, devant les buts français. Partout, le but de Rabiot avait été inscrit à la 52e minute. Il reste 4 minutes à jouer dans le temps, donc réglementaire de cette partie.
Merci Cyril de la Morinerie en direct de Split pour Europe 1. 22h30, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous rejoint à l'instant Sabine Marin. Bonsoir Sabine.
Bonsoir Alexandre.
Prête pour cette Libre Antenne.
Tout à fait, et on vous retrouve à 23h, c'est ça, pour les prochaines infos.
Avec grand plaisir.
À tout à l'heure.